Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Une des paroles que disait Monique, que nous avait rappelé sa fille Catherine lors de la liturgie de funérailles, était de faire confiance. Faire confiance à la vie, à Dieu, à l'univers, toujours et chaque jour, même et surtout dans les moments difficiles. Et que faire confiance, c'est un verbe actif, pas un ressenti. Mais on peut dire que déjà dans l'Ancien Testament, du temps de l'Exode, même pour les grands prophètes comme Moïse, faire confiance n'était pas une évidence. Le Seigneur lui demande d'aller délivrer son peuple en Égypte et il trouvait déjà des excuses pour ne pas répondre oui à la demande du Seigneur. Qui suis-je pour aller voir Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et aussi, ils ne me croiront pas, ils n'entendront pas ma voix. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Pourtant, le Seigneur l'invite à réfléchir. Qui a fait la bouche de l'homme? Et juste avant aussi, le Seigneur lui avait montré quel prodige il pourrait accomplir s'il faisait confiance au Seigneur. C'était d'ailleurs l'épisode du bâton que Moïse jette à terre et qui se change en serpent et qui après, quand il le ramasse, redevient le bâton. Et Dieu va aussi donner une aide à Moïse en la personne de son frère Aaron en ajoutant « Il sera ta bouche et tu seras son Dieu. Il sera ton porte-parole comme un prophète et le porte-parole de Dieu. » Combien de fois n'avons-nous pas la réaction de Moïse et moi en premier lieu? Lorsque l'évêque, il y a maintenant plus de 10 ans, m'a demandé si j'acceptais d'assumer la charge de prêtre de notre paroisse, ma première réaction a été de dire mais pourquoi moi? Je n'en suis pas capable. Moi, je suis ingénieur, je ne suis pas théologien, je ne suis pas philosophe. Ça n'ira jamais. Puis il faudra que Dominique soit aussi d'accord. Puis je n'aurai pas le temps. Bref, tous les arguments possibles pour dire qu'il commettait une grosse erreur. Alors, je suis allé à Béthanie. Béthanie, c'est le centre spirituel de notre église. J'ai été un week-end pour suivre une session avec Père Alphonse, donc le responsable du centre. Et c'était, je crois, sur la prière de Jésus. Et la nuit, j'ai très mal dormi. Je rêvais que je défonçais Père Alphonse, lui assénant des coups de poing et des coups de pied, le couvrant d'injures. Et le dimanche matin, mes résistances avaient fondu. Et j'ai dit à Père Alphonse, « Je vous fais confiance et à la grâce de Dieu. » Et puis, comme je ne suis pas un mauvais brouc, je lui ai quand même demandé si lui, ça allait, parce que, avec les coups que je lui avais donnés la nuit, quand je l'ai quitté, il n'était pas beau à voir. Et alors, il m'a regardé. Et il m'a fait un grand sourire. Dans l'Évangile, Jésus est aussi confronté à une autre difficulté, à un autre biais que nous avons souvent. C'est de ne pas avoir confiance en quelqu'un, de ne pas le croire, parce que nous avons une image de lui qui est différente. Jésus vient d'établir 12 apôtres pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Et je vous rappelle que apôtre vient du grec ancien apostolos, qui désigne un envoyé, un chargé de mission. En l'occurrence, ici, c'était d'annoncer l'évangile au monde entier. C'est d'ailleurs la mission explicite que le Christ leur donne avant son ascension. Souvenez-vous, il leur disait « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Après avoir appelé les 12 apôtres, le Christ a commencé sa vie publique. Et il a fait des guérisons, des miracles. Des personnes commencent à le suivre. Et il décide de retourner à Nazareth, le berceau de son enfance, de sa jeunesse. Et là, le jour du Shabbat, il va prêcher à la synagogue. Et les gens de Nazareth restaient en retrait. Il se posait des questions. D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Ils sont même profondément choqués, nous dit l'Évangile. Pour eux, l'image qu'ils avaient de lui était qu'il était un manuel, un charpentier. On connaissait sa famille, c'était le fils de Marie. On connaissait l'endroit où il avait vécu. Somme, c'était un gars de chez nous, on le connaît. Il y a un autre épisode aussi dans la Bible, près du lac de Tibériade, relaté par saint Jean dans son évangile, où aussi la foule disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph ? Nous connaissons son père et sa mère. Comment dit-il maintenant, je suis descendu du ciel ?» La foule reste bloquée intellectuellement sur des habitudes mentales, des visions du passé. Sa renommée montante est pour eux non fondée. Et nous aussi, nous avons parfois difficile d'écouter quelqu'un, de lui faire confiance, parce que nous sommes aveuglés par nos préjugés. Nous avons une vision réductrice de la réalité. Avant qu'il s'exprime, nous lui avons déjà collé une étiquette. Et pourtant, Dieu se fait connaître à nous dans notre vie de tous les jours, dans notre Nazareth, en provoquant des rencontres fortuites, inattendues. Mais notre cœur n'est pas ouvert. Nous avons perdu l'aptitude à nous émerveiller, à faire confiance. Nous sommes guidés par notre raison, par notre rationalité, par nos peurs de se tromper, d'être rejetés. Nous avons besoin d'une preuve extérieure pour faire confiance. Étymologiquement, confiance, c'est se fier à quelqu'un. C'est remettre quelque chose de précieux à quelqu'un. C'est s'abandonner à sa bienveillance. La foi, c'est faire confiance en quelqu'un. C'est avant tout une affaire de cœur et non de raison. Pour nous chrétiens, ce quelqu'un est une présence invisible qui est sans cesse avec nous et que nous appelons Dieu ou le tout autre. C'est s'abandonner en confiance aux deux bras du Père, le Christ et l'Esprit. La foi n'est pas un concept intellectuel, mais elle se travaille et elle s'enrichit à tous les instants. Elle demande de s'abandonner, d'être dans l'émerveillement, d'être dans la louange, de retrouver son âme de petit enfant où tout est neuf. C'est d'être aussi dans la gratitude pour tout et d'accueillir tout ce qui vient, parce que justement, je peux faire confiance en celui qui est l'amour. Sans la confiance, comme écrit saint Marc dans son évangile, Jésus ne put faire aucun miracle. Le Christ le rappellera souvent d'ailleurs dans de nombreuses guérisons en disant « Qu'il te soit fait selon ta foi. Ma fille, ta foi t'a guérie. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Va, ta foi t'a sauvé, dit-il à l'aveugle. » À la foule ou à ses disciples, il dira aussi « gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Ça, c'était lors de l'épisode de la tempête apaisée. Lorsque le Christ envoie ses apôtres, justement, deux par deux en mission, il insiste sur le dépouillement et la sobriété avant de partir. C'est justement pour renforcer leur foi, leur confiance en Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de croyances que nous confondons souvent avec avoir la foi. Des croyances basées sur notre raison ou sur la science et ses merveilleuses capacités, ses preuves irréfutables. Mais des croyances qui sont des concepts, qui sont des mots, qui sont des théories que l'on nous a inculquées et qu'on nous indique et qu'on nous inculque encore pour notre bien. Pour vivre et être heureux, nous dit-on. Mais ces croyances nous enferment, alors que la véritable foi, la confiance en l'humble présence nous libère. Tout être humain a besoin de sécurité pour mener sa vie. Mais la foi, la confiance en Dieu deviennent vite suspectes. On dénonce un risque d'aliénation. L'incrédulité dans la nécessité pour l'homme d'une vie en Christ, dans la confiance en son amour, Cette incrédulité dont le monde occidental fait preuve aujourd'hui nous conduit à la mort. Et pour clôturer, je voudrais vous rappeler une parole de Sainte Thérèse d'Avila. Elle disait « Nada te turbe, nada te expante, solo Dios basta. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, Dieu seul suffit. À lui soit la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. » Amen.